tout à l'heure. Je voudrais ouvrir la parole et juste pour que justement on puisse peut-être prier de manière un peu plus précise tout à l'heure. Et je voudrais continuer ce qu'on a vu ensemble depuis deux vendredis. Donc ça, c'est le troisième, où on s'est arrêté. Alors peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, je fais un bref récapitulatif. On a parlé des tempêtes. Donc on a vu il y a deux vendredis que la Bible répertorie plusieurs tempêtes, en tout cas plusieurs situations où des hommes, des femmes sont passés par toutes sortes de tempêtes. Et on a vu que il y avait certaines tempêtes où il y avait une explication. Hein. Par exemple, la tempête de Jonas était due à la désobéissance de Jonas. Et on peut se retrouver parfois dans certaines tempêtes à cause de notre désobéissance dans un domaine ou dans un autre. On a parlé de cette tempête dans laquelle l'apôtre Paul s'est retrouvé, acte 27. Et on a vu que là, la cause de la tempête, c'est que on s'était cru maître de ses desseins, on pensait qu'on allait y arriver tout seul, on s'est passé des conseils de l'apôtre Paul, et puis on s'est retrouvé dans une grosse galère. Et des fois, on peut se retrouver dans des galères, dans des tempêtes, à cause de notre orgueil, à cause de ce qu'on n'a pas voulu écouter les conseils. Voyez, on a parlé aussi des disciples de Job, parce que c'est un peu la même chose. Hein, les disciples qui se sont retrouvés dans la tempête, Job qui s'est retrouvé dans une tempête, et l'origine de cette tempête, là, dans ces deux cas, je ne vais pas y revenir, elle était diabolique. Hein, le diable qui se déchaînait, ça c'était il y a deux vendredis. Et puis on a vu aussi, vendredi dernier, qu'il y a par contre des tempêtes dont Dieu se sert pour nous amener plus loin. Ça, c'est un autre genre de tempête. Et on s'est arrêté sur ce verset, vous rappelez, Romains chapitre 5, verset 3. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit. Elle ne détruit pas, elle produit. Elle produit la persévérance, et la persévérance, c'est la victoire dans l'épreuve. Et c'est vrai que parfois, bien sûr, c'est après coup qu'on le réalise, il y a des tempêtes par lesquelles on passe, que Dieu permet, et loin de nous abattre, elles nous font grandir. Elles nous font progresser. Elles nous permettent de comprendre des choses qu'on n'avait pas comprises jusque-là. Elles nous permettent peut-être de rectifier aussi certaines choses, certaines attitudes, certains comportements, peut-être certaines façons de penser. Voyez, et donc ces tempêtes-là, finalement, loin de nous enfoncer, elles ont produit du bon. Voyez, et ça, c'est le miracle de Dieu. Rappelez-vous que les disciples, la deuxième tempête, Matthieu 14, quand ils sont sortis de là, ils vont dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Il semblerait que jusque-là, ils n'avaient pas compris. Et là, la tempête, cette tempête-là là, leur a amené à réaliser cela et à comprendre cela. Ce soir, je voudrais voir une autre tempête par laquelle nous pouvons passer, et certainement par lesquels nous sommes tous passés à un moment donné ou un autre, peut-être quelqu'un y passe ce soir. C'est une tempête invisible, mais qui fait aussi des dégâts, c'est la tempête dans nos pensées. Voilà. La tempête dans nos pensées. Vous voyez, c'est terrible. Alors on va lire un verset en introduction, on en lira d'autres. Dans le psaume 94, au verset 19, juste ce verset, voilà ce que dit le psalmiste. On ne sait pas trop qui a écrit ce psaume, est-ce que c'est David ? Peut-être, mais qu'importe. Et voilà ce qu'il dit à un moment donné, psaume 94, verset 19. Et moi, j'aime beaucoup cette parole parce qu'on peut s'identifier chacun. Peut-être quelqu'un pourrait s'identifier ce soir. Quand il dit ceci, « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Amen. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Qui peut dire qu'il n'est jamais passé par là, à un moment donné, ou à cause d'une situation, d'un problème, ou d'une multiplicité de situations qui s'abattent sur vous, tout d'un coup, c'est comme une mer déchaînée, là. Voyez ? Et vous avez beau essayer de vous raisonner, vous avez beau essayer de vous dire que ça va aller, mais quand la tempête se déchaîne là, vous avez toutes sortes de pensées négatives qui vous viennent, et tu n'y arriveras pas, et tu t'en sortiras pas, et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, et pourquoi moi, et pourquoi pas lui, et lui avec tout ce qu'il fait, et moi j'essaye d'être droit. Vous voyez, toutes sortes de pensées qui vous assaillent, qui vous accablent, et vous vivez ce que le psalmiste vivait là, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. C'est comme une mer déchaînée dans l'esprit, et vous avez dû remarquer ça, quand vous essayez de contrôler ça, vous n'y arrivez pas. Quoi. Vous voyez, c'est comme une mer déchaînée, c'est comme des vagues qui déferlent les unes après les autres. Parce que dans nos pensées, c'est la tempête. Peut-être que les autres ne le voient pas, mais nous, on est là avec nos pensées et vous pouvez y aller, le diable alimente ça. Hein, c'est vrai, hein, regarde comment tu es, c'est pas normal, hein, qu'est-ce que j'ai fait, hein, alors on va chercher, qu'est-ce que... Vous voyez, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Et ce qui m'interpelle, c'est que quand vous regardez dans la parole, alors je n'ai pas tout relevé, mais j'ai pris juste deux, trois cas là rapidement, vous vous rendez compte que d'autres ont vécu ce genre de tempête-là, dans leurs pensées, voyez, et pas des moindres. Rappelez-vous de Job. Job, bien sûr, une tempête qui avait pour origine le diable qui a remis en cause la foi de Job, mais Job, il est passé par... Alors, bien sûr, déjà physiquement, on n'en parle même pas. Je ne sais pas si on imagine émotionnellement ce qu'il a vécu, cet homme. Mais regardez ce qu'il dit. Alors, j'aurais pu prendre plein de textes, j'ai pris celui-là, regardez. Regardez ce qu'il dit à un moment donné. « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère ? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles ? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter ? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai. » Vous voyez, pourquoi ? Vous voyez, c'est la tempête dans les pensées. Vous voyez, pourquoi, Seigneur ? Comment ça se fait que je passe par là ? Comment ça se fait que je vis ça ? Peut-être ce soir, quelqu'un passe par cette vallée-là. Et c'est la tempête, vous voyez, à l'intérieur. Job a connu ça. Rappelez-vous de Jérémie, les lamentations de Jérémie, ça porte bien son nom. En général, quand on pense aux lamentations de Jérémie, on pense à ce verset qui dit « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Et on dit tous « Amen !» Sauf qu'en général, on oublie ce qu'il y a avant. Et ce qu'il y a avant, oui, c'est ça, hein, Bernard, tais-toi. Ce qu'il y a avant, c'est ça. Et moi, ça m'interpelle parce que je me dis « Mais c'est nous, ça. C'est moi. » Quand je pense à ma détresse et à ma misère, et peut-être ce soir, quelqu'un pourrait le dire, quand je pense à ma situation, quand je pense à ce que je vais retrouver à la maison en rentrant, quand je pense à mon compte en banque, quand je pense à ceci, quand je pense à cela, voyez, à l'absinthe et au poison, enfin, réfléchissez à ça, ma misère, ma détresse, à l'absinthe et au poison, il n'y a rien qui va, quoi. Vous voyez, regardez ce qu'il dit. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ce n'est pas la joie. Hein. C'est un homme de Dieu qui parle. Hein. Et c'est suite à cela qu'il va se ressaisir. Mais on sent qu'il y a un combat en lui. Voyez, il y a ce combat de la foi contre les raisonnements, les pensées qui sont là. Et c'est comme une mer déchaînée. On le sent quand on lit ces versets. Voyez. Et puis j'ai relevé aussi, j'aurais pu en prendre d'autres, le psaume 73, Asaph. On connaît l'histoire. Asaph qui ne comprend pas. Comment se fait-il que les méchants réussissent ? Ainsi sont les méchants toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Et lui qui essaye d'être droit, il ne comprend pas que pour lui c'est compliqué. Il y en a des choses qu'on ne comprend pas. Et comment ça se fait ? Et comment ça se fait que les autres, ils font n'importe quoi, ils mangent, ils boivent, ils s'amusent, et tout va bien. Et toi, tu essayes d'être droit, intègre, vrai, tu es malade. Et pourquoi ? Et comment ça se fait ? Et regardez ce qu'il dit, psaume 73, verset 16. « Quand j'ai réfléchi là-dessus, vous voyez ? » Ça veut dire que ça cogite. Hein ?« Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, j'essayais de comprendre. » Vous avez remarqué, en général, quand on essaie de comprendre, on ne comprend rien. Et on s'enfonce encore plus. « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » Et on se rend compte que tous ces cas, j'aurais pu en prendre d'autres, montrent que ben, cette tempête-là... On y passe tous à un moment donné ou à un autre. Hein. Vous voyez, à cause des aléas, à cause des situations où c'est comme des vagues déferlantes, là, ça a une force, ça a une puissance et ça peut vous mettre par terre. Vous voyez. Et je remarque une chose en réfléchissant à ça, je vais prendre un exemple, mais c'est que le diable aime bien déchaîner cette tempête-là. Il aime bien. Vous voyez. Et là, je pense à l'attitude du géant Goliath. Vous vous rappelez, 1 Samuel 17, son attitude, elle est très significative. Sa manière de faire à Goliath. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de combat, il n'y a rien. Hein. Je me dis qu'à la limite, si avant de venir défier l'armée d'Israël, sous leurs yeux, il avait, j'allais dire, il en avait massacré deux ou trois Israélites, il y aurait eu de quoi, vous voyez. C'est pas ça qu'il a fait. Rappelez ce qu'il a fait. Regardez 1 Samuel 17, verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Et rien que ça. Et je viens te faire le matin et je reviens le soir et je distille mes petites paroles dévastatrices, rabaissantes, humiliantes. Et ça suffisait pour plonger le peuple dans la peur. Et d'ailleurs, vous relirez le texte, ils vont dire, mais avez-vous vu cet homme ? Avez-vous vu cet homme ? Et c'est ce que le diable fait. Hein. Il ne faut pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas eu de combat. Là. Il n'y a rien eu. Mais des fois, et tu as vu ton état ? Tu as vu ce que... ce qu'on t'a dit là? Tu as vu le médecin ce qu'il vient de te dire là? T'as vu? Et là, vous êtes là et il y a. Et ça commence. Vous voyez? Et ils sortaient le matin, le soir, je l'ai déjà dit, je vais le redire, c'était pas anodin. Le matin, comme ça, ça leur fichait la journée en l'air, et la nuit, ça les empêchait de dormir. Donc imaginez-vous dans quel état ils étaient. Et imaginez-vous comment ça cogitait. Vous voyez? C'était ça. Vous voyez? C'était ça. Et vous voyez, le but, c'est, le but de Goliath, c'était de semer le trouble dans les pensées du peuple d'Israël. Et il y est arrivé, hein? Est arrivé, voyez. Et quelque part, je me dis, mais c'est exactement comme avec nous aujourd'hui, voyez. L'ennemi de notre âme veut essayer de semer le trouble dans nos pensées. T'es sûr que tu dis que tu y crois, mais t'es sûr. Tu dis que tu, hein, Dieu est grand, mais t'as vu. Regarde, hein, tu confesses que Jésus est Seigneur, et puis regarde, voyez. Et ce que j'aime, c'est que c'est l'attitude de David, parce que quand il arrive, David, il ne va pas laisser le doute s'installer dans son esprit. Il ne va pas laisser le trouble prendre forme en lui. Regardez ce qu'il dit en Samuel 17, verset 26. Il va dire ceci. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Quand il voit ce gars, quand il entend ce qu'il dit, c'est sa réaction. Vous voyez, il ne laisse pas le doute prendre place en lui. Il ne laisse pas. Il prend une position de foyer. Il n'a pas commencé à se dire... bon, c'est vrai, j'ai terrassé le lion, l'ours, mais c'est vrai que celui-là, il est gros. Hein. Celui-là, hein, presque il aurait pu dire attends. Oh, non, c'est trop gros là. C'est trop gros. Vous voyez, il laisse pas. Il laisse pas le doute s'installer dans son esprit. Vous voyez. J'aime l'attitude de Paul et de Silas aussi. Vous connaissez ce passage, acte 16, verset 25. Vous rappelez que s'ils se retrouvent en prison, jetés en prison, c'est quand même à la base sur une direction de Dieu. C'est une direction de Dieu quand même. La vision du Macédonien. Ils sont dans le plan de Dieu. Vous voyez ? Ils sont dans le plan de Dieu. Et pourtant, suite, vous rappelez, à la délivrance de la Pythonesse, ils sont jetés en prison. Et là, mais ils auraient pu se dire, mais Seigneur, c'est quoi le truc ? Et leurs pensées auraient pu se troubler, s'obscurcir, ils auraient pu commencer à se poser des questions, laisser le doute les envahir, la peur les envahir, qu'est-ce qui va nous arriver ? Vous voyez, ils auraient pu commencer à se plaindre, à gémir. Et la Bible nous dit qu'ils ne vont rien faire de tout cela. Ils auraient pu dire, Seigneur, mais explique-nous, ce n'est pas normal cette situation. Ils vont chanter, ils vont prier, chanter les louanges de Dieu. Vous voyez ? Alléluia. Vous voyez ? Et je crois quelque part que la leçon spirituelle pour nous, encore aujourd'hui, elle est celle-ci, c'est que on peut avoir, et c'est peut-être le cas ce soir, on peut avoir toutes les bonnes raisons d'être troublé. Et peut-être ce soir, on est troublé par une situation, par un problème, par des problèmes, par ce qui nous arrive, par ce qu'on vit, par ce qu'on traverse. On peut avoir toutes les bonnes raisons, parce qu'on est sur terre. Il ne s'agit pas ce soir de nier, hein, de dire « Non, tout va bien. » Tout va bien, ça va. Non. On peut avoir toutes les bonnes raisons, voyez. Mais c'est là que quelque part, avec l'aide et la grâce de Dieu, il y a une position de foi à prendre. Alors je sais que c'est facile à dire, mais cette position qui consiste à dire, Seigneur, c'est vrai, la situation elle est ce qu'elle est, mais je refuse de laisser la crainte, de laisser le doute, de laisser l'angoisse, de laisser, voyez, tous ces sentiments prendre le dessus. Je refuse. La situation, elle est ce qu'elle est. Je ne la nie pas. J'ai les deux pieds sur terre. Mais avec ton aide et ta grâce, Seigneur, je refuse de commencer à cogiter, et de laisser la tempête se lever, quoi. Je refuse, Seigneur. Et quelque part, c'est ce que font Paul et Silas, là. C'est ce que font Paul et Silas dans cette situation, voyez. Peut-être juste, alors bon, c'est minime parce que, mais ça a été une petite expérience pour moi, ça m'a encouragé. Il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Bon, je vais parler de toi, Marc, c'est pas grave. On était avec Marc là dans le bureau pour les comptes de l'église, voilà, pour la comptabilité, tout ça, machin. Et puis à un moment donné, il y a eu un petit beans, je ne sais pas si tu te rappelles. Hein, alors, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais avec le logiciel de comptabilité. Logiciel de comptabilité, il y a l'exercice de l'année d'avant et il y a l'exercice de l'année en cours. Et quand vous ne pouvez avoir que deux exercices ouverts. Voyez. Et quand là, on passait en 2019, pour passer sur l'exercice 2019, il fallait clôturer 2017. Voyez. 2017. Il y avait 2017-2018, on passait en 2019, il fallait clôturer 2017. Voyez. Sauf qu'on n'arrivait pas à clôturer 2017. Et si vous n'arrivez pas à clôturer 2017, vous ne pouvez pas commencer 2019. Alors, vas-y que je bidouille, et que je regarde, et qu'est-ce qu'il faut. Et ça ne se ferme pas. Bon, ça ne se clôture pas. Marc est reparti, je ne vous explique pas. Hein. Bon, j'ai essayé de dire une ou deux blagues, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'ai vu que ça n'a pas marché. Voilà. Mais bon, moi je suis remonté à l'appartement en haut, j'étais contrarié. Voilà, j'étais contrarié. C'est pas que les comptes n'étaient pas bons, c'est qu'il y avait des trucs, on n'arrivait pas à le faire. Voilà. Et j'ai pas passé une bonne nuit. Je suis un peu anxieux, un peu beaucoup même, et ça m'a contrarié, tout ça. Et le matin tôt, comme je fais d'habitude, je me lève et là, devant le Seigneur, j'ai commencé direct d'entrée par ça. J'ai dit, bon, écoute, Seigneur, je suis contrarié. Je suis contrarié. C'est... Alors, Seigneur, tu as vu hier soir ce qui s'est passé, on n'y arrive pas. Il faut que tu nous aides, mais je refuse de me laisser pourrir la journée avec ça. Je refuse, je ne veux pas me laisser pourrir par ça. Seigneur, je te fais confiance. Et là, je ne peux pas vous expliquer. Je ne peux pas vous expliquer parce que... Il n'y a pas eu de voix, il n'y a rien eu, j'ai pas senti des frissons, rien. Mais il y a une paix qui est venue à ce moment-là. Et je n'ai pas entendu de voix, mais c'était clair dans mon esprit, le problème est réglé. Voilà. Et puis après, je suis passé à autre chose, j'ai eu mon moment avec Dieu, gloire à Dieu, tout ça. Et bon, c'est bon, la journée s'est bien passée. Et dans la semaine, le problème a été réglé. Voilà. Il y avait une manip à faire, on ne savait pas. Voilà. Et donc, ni lui ni moi. Et bon, voilà, le problème a été réglé. Alors, c'est minime, vous voyez, c'est. Voilà. Mais vous voyez, quand quelque part, il y a des situations des fois où on est là où. Et c'est là où, quelque part, je crois que Dieu nous attend aussi. Dire, Seigneur. Avec ton aide, avec ta grâce, c'est pas facile. Et je condamnerai jamais quelqu'un qui n'arrive pas à le faire. Au contraire, je l'aiderai. Le soutenir. Faut pas dire, alors, qu'est-ce que c'est ça? T'as pas la foi? Parce que ça, je l'ai déjà vu. Hein. T'as pas la foi, finalement, vous l'assassinez plus que ce que vous l'aidez, quoi. Hein, faut l'aider. Faut l'aider s'il n'y arrive pas. Il faut l'aider, quoi. Voyez. Mais, Seigneur, je veux prendre position. Je veux pas laisser la peur, la crainte, le doute devenir comme une tempête incontrôlable et je m'en sortirai pas. M'en sortirai pas. Et je crois que Dieu nous attend là pour nous faire des expériences. Et d'ailleurs, et je vais un peu plus loin, dans ces périodes-là, quand cette tempête veut se lever dans notre esprit, il y a quelque chose qui est primordial, qui est essentiel, c'est le contact avec Dieu. C'est la communion avec Dieu. Et ça, c'est essentiel. Avoir une communion avec Dieu, garder la communion avec Dieu. Et je pense à cette parole de l'apôtre Paul. Regardez, on la connaît par cœur. Où Paul dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien. » C'est facile, hein? T'inquiète pas, ouais. T'inquiète pas. Sauf que celui qui dit ça, il est en prison à ce moment-là. Donc ça prend quand même une connotation supérieure. Ne vous inquiétez pas, pourquoi? Parce que Paul, c'est un homme qui a une communion avec Dieu. Et d'ailleurs, tout de suite derrière, qu'est-ce qu'il dit? Mais en toute chose, dans la tempête qu'on traverse, mais en toute chose, faites connaître, autrement dit, faites connaître, c'est la communion avec Dieu, c'est la prière. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et regardez la suite. Et la paix de Dieu, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure pour moi, mais qu'on a tous vécu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle gardera, oui, vos cœurs. Oui, vos cœurs. Mais plus que ça. Et vos pensées. Et vos pensées. Parce que c'est important. Oui, nos cœurs, oui. Mais les pensées aussi. Gardera vos cœurs et vos pensées, pas en vrac, mais en Jésus. Voyez, pas en Jésus. Et je crois que c'est important de réaliser que la communion avec Dieu, qu'on le veuille ou non, ça va influer sur nos pensées. Quand j'ai une communion avec Dieu, une relation personnelle avec Dieu. Moi ce verset, franchement, plus le temps passe et plus je me dis, ben, c'est ça le secret. Si, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Voilà. Et ça, ça va influer sur nos... On ne s'en rend pas compte. Mais c'est tellement important quand il y a cette guerre, ce combat, cette tempête qui se lève dans nos pensées. C'est important d'avoir la communion avec Dieu. Quand Pierre, acte 12, vous connaissez l'histoire, quand Pierre, il dort, mais je l'ai déjà dit, mais c'est la paix surnaturelle de Dieu, là. C'est pas possible. Il dort pas parce qu'il a pris des cachets. Il dort pas parce qu'il a pris pour dormir, des ténestas. Il dort parce que c'est un homme qui a une communion avec Dieu et qui a la paix. Voilà. Qui a la paix. Et quelque part, parce qu'il est en paix, parce que humainement parlant, il y avait tout pour tourner en cage comme un lion, là. Quand vous savez que vous allez y passer le lendemain, vous dormez pas, hein, en général. Hein. Enfin, en général, vous n'allez pas dormir. Et lui, il dort. Moi, je me suis toujours imaginé les soldats qui le gardaient, qui étaient là comme... Mais le gars, il dort. Le gars, il est dans une paix royale. Mais c'est ça, c'est ce qu'on vient de lire. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et franchement, s'il y a un domaine où le diable nous attaque, c'est nos pensées. C'est nos pensées. Et c'est un champ de bataille, les pensées. C'est un champ de bataille. Et on a besoin que nos pensées soient gardées en Jésus-Christ. Mais comment je vais le faire? La communion avec Dieu. La relation personnelle avec Dieu. Voyez, relisez l'histoire de Daniel. J'ai noté, par deux fois, sa vie est mise en jeu. Par deux fois. Vous lirez, c'est Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 6. Hein, et par deux fois, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans la présence de Dieu. Et vous rappelez ce passage, hein, Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit... Et le décret, c'était quoi? C'était que celui qui ne se prosternait pas devant le roi, eh bien, le lendemain, chut, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans la présence de Dieu. Voyez, il n'a pas commencé à cogiter, à se dire, aïe, 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 qu'est-ce que je vais faire? Comment on va faire? Et comment je vais m'en sortir? Et, voyez, il a pas laissé cette tempête se lever dans ses pensées. Non, 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 non. Il vient dans la présence de Dieu. Et puis, je pense à, et je vais finir par là, je pense à une histoire... Et moi, c'est un texte qui m'a toujours interpellé. Je voudrais qu'on la lise. C'est David. Dans 1 Samuel, chapitre 30, je voudrais qu'on lise cette histoire parce qu'il y a des mots là qui sont forts. Et chaque fois que je la lis, je me dis, mais Seigneur, c'est, bien sûr, pas dans les mêmes circonstances, mais vous allez voir qu'il y a des choses qu'on retrouve dans nos vies aujourd'hui. Regardez, 1 Samuel 30, verset 1er. On va lire les 7 premiers versets. 1 Samuel 30, verset 1er. Lorsque David arriva... Le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, c'est-à-dire la ville où David s'était établi avec ses hommes et leur famille. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, les gosses, tout le monde y était passé. Ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Et là, il nous est dit, David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient amenés captifs. Vous imaginez? Essayez un peu de vous imaginer la situation. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées, Akinoam de Jizril et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Amen. Est-ce que je voudrais que... Je vais faire ressortir quelques éléments là. Il y a des mots forts là. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a des choses. Vous voyez, on peut facilement s'imaginer dans quel état de cœur, état d'esprit étaient David et ses hommes. Et vous avez remarqué, verset 4, il nous est dit qu'ils ont élevé la voix, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Vous imaginez? L'ambiance était assez chouette hein, ce jour-là. Ils ont pleuré, je ne sais pas comment ils étaient. Jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, voyez, mais on peut dire que ce n'était pas la joie. Hein, et on peut imaginer que dans les cœurs, dans les esprits, mais qu'est-ce qui s'est passé, voyez, toutes les pensées qui ont dû s'entrechoquer les unes avec les autres, là, dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais pourquoi on les a laissés? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et comment ça se fait? C'est pas normal. Et on va faire ceci. Puis d'autres dire, on va y aller. Non, on n'y va pas. Ceci. Vous voyez, ça a dû être terrible. Nous, on lit ça comme ça, mais je me dis, mais ça a dû être terrible. Vous voyez, il y a une guerre qui a dû s'installer dans les pensées. Et vous avez remarqué, c'est allé loin. Ils ont parlé même de lapider David. Alors là, j'essaie de me mettre à la place de David. Non seulement il n'a plus rien. Lui, c'est femme, gosse, il n'y a plus personne. Mais en plus, on veut le lapider. En plus, on l'accuse à lui. Vous voyez, c'est terrible, vous voyez. Je me dis, mais... Et vous avez noté, David fut dans une grande angoisse. Car le peuple parlait de le lapider. Alors déjà, que être dans l'angoisse, c'est pas mal. Là, c'est pas l'angoisse, c'est une grande angoisse. Et vous le savez comme moi. L'angoisse, vous avez beau essayer de vous raisonner quand ça vous prend. Tu peux te dire tout ce que tu veux. Quand l'angoisse, ça vous prend, quand la peur, ça vous prend, quand la crainte, ça vous prend, c'est incontrôlable. Et vous avez beau être là, vous dites de raisonner la personne, dire allez, allez, ça va aller, tout ça. Mais il n'y a rien à faire, quoi. Mais David est dans une grande angoisse. Ils avaient de l'amertume dans l'âme. Là, il n'y avait pas les paroles d'encouragement, je vous le dis. Vous imaginez un peu tout ce qui a dû se passer dans leur esprit, vous voyez. Et je me dis que ce que j'aime dans ce texte, c'est à la fin du verset 6, le « mais ». En général, quand il y a un « mais » dans une phrase, c'est pas bon. Hein, c'est pas bon. Hein. C'est bien, c'était ceci. Mais, appelez ça, c'est comme Naaman, « mais cet homme fort et vaillant était lépreux ». Mais, ah oui, en général, le « mais », c'est pas bon. Mais là, le « mais », il est bon. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Vous voyez, son Dieu. Voyez. Comprenez pourquoi c'est bon que l'Éternel soit notre Dieu. Hein. Parce que si c'était un Dieu, là, il ne serait plus rien resté, mais c'était son Dieu. Et David a repris courage, vous voyez. Qu'est-ce qu'il fait? Il est venu dans la présence de Dieu. Alors vous lirez la suite. Comment Dieu a retourné la situation. Dieu est intervenu dans cette situation. Et tout ce qu'ils avaient perdu, ils l'ont récupéré. Enfin, voyez, mais dans ce moment dramatique, alors que les pensées commençaient à s'agiter en foule, dans chaque esprit qui était là, on parlait de lapider David. Chacun était dans l'amertume. Peut-être on a commencé à cristalliser sa colère sur David. Mais qu'est-ce que tu as fait? Enfin, on peut aisément s'imaginer. Hein. Mais David, il vient dans la présence de Dieu. Il vient dans la présence de Dieu. Et je crois, mon frère, ma soeur, qu'il y a des moments où, quand cette tempête-là se lève, c'est peut-être le cas ce soir, quelle que soit la forme ou la manière, mais la seule chose qu'on a à faire, c'est de venir dans la présence de Dieu. Seigneur, je veux m'appuyer sur toi, parce que si je laisse ça se répandre, si je laisse ça va partir dans tous les sens, et c'est pas des paroles d'encouragement que je vais me donner. Voyez, venir dans la présence de Dieu. Et vous lirez, Dieu est intervenu. Vous vous rappelez quand Jésus est intervenu dans la tempête, il nous a dit qu'il eut un grand calme. Et je me disais, peut-être en préparant ce message, peut-être que ce soir, peut-être que quelqu'un, peut-être qu'on a besoin dans notre cœur, dans notre esprit, d'un grand calme. D'un grand calme. Que Jésus se lève et dit, Seigneur, tu vois cette tempête. Besoin d'un calme. Et cette tempête-là, finalement, dans notre esprit, j'allais dire, il n'y a que deux remèdes. Il n'y a que deux remèdes. Se raisonner, bon, ça va tenir 5 minutes, mais ça ne suffit pas. Et, premier remède, on l'a vu, c'est sa présence. On a besoin de venir dans la présence de Dieu. Et laisser Dieu nous rassurer, c'est ce que David a fait. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Je ne sais pas quelle prière il a faite à ce moment-là. Bien sûr, après, il est allé voir le sacrificateur qui lui a apporté l'effort, etc., etc. Mais je suis convaincu que David a fait monter une prière devant Dieu. Il s'est mis devant Dieu. Et d'ailleurs, quand vous lisez les psaumes, vous le voyez dans tous les psaumes, quand il est dans le désert, et, mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Voyez, quand cette tempête elle est là en train de se lever, ou elle va commencer à se lever, il vient dans la présence de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez David. Et qu'on retrouve souvent. Et je crois que c'est important que chez nous, je me dis déjà à moi, il y a ce réflexe, Seigneur, je ne comprends pas la situation, pourquoi elle est comme ça, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ça me tombe dessus, et pourquoi ceci. Je ne comprends pas, Seigneur, mais Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Je ne veux pas laisser le diable venir semer là, la zizanie, souffler sur les braises et la tempête se lève, je veux te faire confiance. Et puis le deuxième remède, et on l'a lu en introduction, et je finirai par là, c'est sa parole. C'est sa parole. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Mais quelle consolation ? Mais c'est de sa parole. Parce que la consolation dont on a besoin, on l'a dans sa parole. Et là, quand on lit la parole, on trouve les conseils dont on a besoin, les directives dont on a besoin, on trouve la paix dont on a besoin. Et combien de fois on a fait cette expérience ? Vous êtes là dans un moment et puis il y a un verset qui vous tombe là. Ça vous encourage, ça vous fortifie, ça tombe pile. Hein. Voyez, béni soit Dieu, ça vous fait du bien. Hein, on en a besoin, voyez. On se rend compte aussi que peut-être d'autres sont passés avant nous. Voyez, toutes ces histoires, on dit à quoi bon s'arrêter, lire l'histoire d'un tel. Et puis des fois, on va lire une histoire, on va dire mais quelque part, ça y ressemble à ma situation. On dit tiens, mais je suis pas seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Et on lit ça et ça nous encourage. Tes consolations réjouissent mon âme. Alors ce soir, si on traverse cette tempête là. J'allais dire, on n'est pas anormal, c'est pas un péché, loin s'en faut, mais on peut s'approcher du Seigneur et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je te prie de m'aider, tu vois là, tu vois ce qui se passe, tu vois telle nouvelle que je viens d'apprendre, tu vois telle situation, tu vois ça empire, pourtant on fait ce qu'il faut, on essaye, pourtant on prie, Seigneur, pourtant, voyez, on peut tout lui dire à Dieu, hein. On peut tout lui dire. Hein. Quand on est tous ensemble, il y a des choses, ça se dit pas, il y a des prières... Il semble que ça ne va pas se dire en public. Mais entre nous et Dieu, on peut tout lui dire. Et si vous voulez rentrer dans tous les détails, vous le faites tout seul. Les détails, on n'a pas besoin de les savoir. Vous pouvez le dire au Seigneur. Mais là, dans la présence de Dieu, laissez le Seigneur faire son œuvre en nous. Et trouver le calme dont on a besoin, la paix dont on a besoin. Et moi, je dis, Seigneur, ce qu'il nous faut, c'est cette paix surnaturelle. Qui surpasse toute intelligence, ça ne s'explique pas, ça ne se comprend pas, ce n'est pas fait d'émotions, de sensations, c'est la, vous ne l'expliquez pas, tu ne t'affoles pas, ben non, mais ça va, ouais, ça va, vous avez l'impression qu'il y a le feu, mais vous êtes là, ce n'est pas que vous êtes inconscient, c'est que, comme Pierre, quoi. On aurait pu dire, Pierre, il y a le feu là, ça sent le roussi pour toi, hein. Ben il dort, mais c'est ça, Seigneur, que le Seigneur puisse nous aider vraiment. Si ce soir on passe par cette tempête-là, eh bien, permets au Seigneur peut-être ce soir de venir mettre du calme dans tes pensées pour qu'elles soient en Jésus-Christ. Alléluia. Et peut-être dire, Seigneur, avec ton aide, je veux prendre position, dire stop. Stop à la peur, stop à la crainte, stop au doute, stop à commencer à me dire qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Seigneur, je veux m'attendre à toi. Je veux m'attendre à toi. Toute cette semaine... Il y a un verset, je ne suis pas arrivé à m'en détacher. Et je me dis, bon, ben, écoute, Seigneur, je m'y attache. Et on le connaît par cœur. Pourtant, je le connais par cœur, mais il m'a fait un bien fou. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il agira. Alléluia. Alors, Seigneur, je veux m'attendre à toi. Alléluia. Et ce soir, je voudrais qu'on prenne quelques instants pour prier, demander au Seigneur de nous aider. Moi, je ne sais pas, peut-être quelqu'un passe par cette tempête-là, peut-être ça fait un moment que ça dure, peut-être ça se calme, ça s'arrête, ça reprend, peut-être quelqu'un dans l'angoisse ce soir, comme David, une grande angoisse, hein, parce que hein, quand il y a quelque chose qui vous tombe dessus, moi, je comprends qu'on soit angoissé, je comprends qu'on ait peur. Mais Seigneur, on est devant toi. On est devant toi. Alléluia. Alors,